Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde qui portera sur les vaccins, les antibiotiques, les deux grands bienfaiteurs de l'humanité du XXe siècle. Donc, la découverte de la vaccination à la fin du XIXe siècle et celle des antibiotiques à la première moitié du XXe siècle a vraiment révolutionné la santé publique. C'est entre autres ce qui a permis de gagner 20 ans d'espérance de vie dans les pays développés. Nous ne mourrons plus en masse de la rubéole, de la variole, de la poliomyélite ni du tétanos. On n'a pas peur non plus que nos enfants soient défigurés à vie par la variole. On survit aussi beaucoup mieux aux opérations. Pourtant, ces deux avancées majeures qu'ont été les vaccins et les antibiotiques sont battues en brèche à l'heure actuelle, enfin un petit peu, sont un petit peu en perte de vitesse. Et ça pourrait avoir des conséquences assez dramatiques sur la santé publique du siècle prochain et du siècle en cours. Donc pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous avons quatre intervenants qui viennent des milieux médicaux, scientifiques et littéraires. En partant de ma gauche, nous avons donc Lydie Bagage qui a fait des études de microbiologie à Lyon, qui est aussi donc à l'heure actuelle documentaliste dans la santé publique, qui est également écrivain de science-fiction et qui a notamment publié un premier roman, Les larmes de Yada, qui se déroule donc à Lyon, dans une Lyon futuriste. Qui a été publié cette année. Nous avons également Olivier Getscher qui a le triple mérite d'être ingénieur mécanicien, écrivain et bon cuisinier. Donc c'est beau. Il est également auteur de romans et de nouvelles, de science-fiction, de steampunk et de polar, dont la série du Baron Noir, ou alors Évariste, qui est un roman fantastico-rigolo. Nous avons également Sylvain Chambon, qui lui aussi a suivi des études d'ingénieur à Nantes, qui le jour est consultant en base de données, et qui le reste du temps est un peu un autodidacte fou, qui s'intéresse particulièrement aux interfaces qui peuvent exister entre les sciences de l'information et les sciences du vivant, et qui, évidemment, quand il a un peu de temps, comme ça, entre deux études, écrit des nouvelles. Et enfin, nous avons Baptiste Beaulieu, qui est médecin généraliste, après avoir été médecin urgentiste. Son blog, alors voilà, nous réconcilie, enfin, tente et réussit à nous réconcilier avec la communauté médicale, en faisant un récit très touchant de la réalité du terrain, de la vie aux urgences et dans un cabinet du médecin. Le succès de son blog a conduit à la publication d'un livre, alors voilà, les mille et une vies des urgences, qui a été traduit en 14 langues et qui à l'heure actuelle fait l'objet d'une adaptation en bande dessinée qui vient d'être publiée et qui est disponible à la librairie des Utopiales. Donc, au sujet du vaccin, il a publié une vidéo qui est devenue virale qui réfutait une partie des arguments des anti-vaccins. Mais voilà, et il est encore vivant, ce qui est magnifique. Mais évidemment, sans trancher de la question de l'obligation vaccinale dont on va parler tout à l'heure. Donc, Baptiste Beaulieu, pour commencer sur de bonnes bases, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est qu'un vaccin, ce que c'est qu'un antibiotique, qu'est-ce qu'on soigne avec ?
Bonjour à toutes et tous. Un antibiotique, c'est une substance qui est souvent naturelle, qu'on peut synthétiser souvent à partir de substances naturelles et qui possède souvent deux propriétés. Soit elle les cumule, soit elle n'en présente qu'une seule, et dans ce cas-là, il faut cumuler les antibiotiques. Soit c'est bactéricide, c'est-à-dire ça tue les bactéries, soit c'est bactériostatique, c'est-à-dire ça les empêche de se reproduire, d'une part pour les antibiotiques. Et ensuite, les vaccins, ce sont des substances. Alors, en général, ce sont soit des virus qui sont morts, soit des virus qui ont été découpés, en gros, voilà, et donc qui sont inactifs, et qu'on injecte en intramusculaire ou en sous-cutané pour habituer le corps et le système immunitaire à reconnaître les motifs qui ornent les parois des virus pour que, au cours de la vie de l'individu, le jour où l'individu sera en contact avec un virus ou avec ce virus, le système immunitaire se réveille et ne découvre pas de manière naïve ce virus. Voilà, en gros.
D'accord, merci beaucoup. Mais du coup, là, on en a parlé, on assiste depuis quelques temps à une grosse, grosse montée des positions sceptiques, voire carrément anti-vaccins. Qui sont particulièrement audibles en plus depuis que l'État a annoncé qu'il souhaitait rendre obligatoire la vaccination pour 11 vaccins plutôt que 3. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est si important que tout le monde se vaccine ? Pour toutes les autres formes de traitement, on se dit que c'est un choix individuel et que pourquoi est-ce que pour le vaccin, est-ce que le choix de se traiter n'est pas simplement du ressort de la responsabilité individuelle ?
Alors, pour le coup, je pense que c'est pas qu'un choix individuel, en tout cas pas pour tous les vaccins. Il y a des vaccins, effectivement, je reprends ce que tu disais, où on met des morceaux, notamment le tétanos ou la diphtérie, qui sont des morceaux de toxines, en fait, pour le coup, et où là, en fait, la protection et individuel. En soi, on cherche pas à protéger les autres en se vaccinant. Mais au contraire, il y a pas mal de vaccins qui sont qui ont une utilité collective en soi et qui sont presque altruistes. On peut prendre l'exemple de la rubéole. Donc ce vaccin-là, en fait, on vaccine les enfants et on revaccine des parents, non pas pour les protéger eux-mêmes, mais pour protéger la génération suivante, c'est-à-dire les fœtus. Puisque là, en fait, là aussi, je parle sous ton contrôle, cette maladie, la rubéole, va provoquer des malformations au niveau fœtal. Et pas du tout chez les enfants ou chez les adultes, si un enfant ou adulte attrape la rubéole. Donc en fait, on ne peut pas uniquement parler d'intérêt individuel lorsqu'on traite de la vaccination. L'intérêt est aussi collectif.
Par contre, justement, là, je vais faire un peu le poil à gratter, c'est-à-dire que je vais prendre deux minutes le point de vue des anti-vaccins. Une des choses qui ressort assez régulièrement, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de se vacciner ? Après tout, la maladie fait très bien le boulot. Les enfants vont construire naturellement et leur système immunitaire. Et après tout, si c'est naturel, c'est tellement mieux que quand c'est artificiel.
Alors là, ça tient tellement debout sur les fœtus, par exemple. Le fœtus va faire le boulot quand il va avoir la rubéole ? Ben non, il va être déformé. Et après, oui, il fera pas d'enfant plus tard, ça c'est sûr. Non, il faut rester cohérent. C'est pas un argument qui tienne bien debout, même si tu l'as démonté bien mieux que je viens de le faire dans ta vidéo. Si vous voulez pas vous vacciner du tétanos, c'est vrai que dans ce cas-là, ça vous regarde. Mais si jamais vous avez vu des vidéos de quelqu'un en train de mourir de du tétanos, vous courrez vous vacciner. Parce que je crois que façon de mourir, il n'y a pas pire. Il faut également réfléchir un petit peu, en fait.
Sans compter le coût de la prise en charge de la pathologie, quoi.
Enfin là, je me mets dans le point de vue d'un gros égoïste. Ouais. Hein. Le coût, s'il pense qu'il n'en a rien à taper de se vacciner pour les autres, le coût hospitalier, je pense qu'il s'en tape aussi. Hein.
En fait, c'est une question de couverture vaccinale. On vit en collectivité. Là, nous sommes une collectivité. Plus le nombre de personnes vaccinées augmente, et moins vous allez propager à votre voisin le virus qui circule dans une collectivité. Au sein de la collectivité, il y a des personnes qui sont en bonne forme. Il y a également, en bout de chaîne, c'est-à-dire les personnes âgées ou au début de la chaîne, les enfants, qui sont beaucoup plus fragiles. Et il y a également, le long de la chaîne, des personnes qui peuvent être touchées par des maladies qui affaiblissent leur système immunitaire, comme les leucémies. Ces personnes-là sont beaucoup plus sensibles au virus qui les tue. La grippe, c'est plus de 3000 morts chaque année chez les personnes âgées, par exemple. Ça, on n'en parle pas assez, mais c'est aussi pour elles qu'on doit se vacciner, pour nos grands-parents, pour pouvoir les protéger. Et là, je fais juste un petit moment coup de gueule. C'est-à-dire que quand j'ai publié la vidéo que j'ai fait, je me suis fait traiter de tueur d'enfants pendant des jours et des jours. Et à côté de ça, mes détracteurs me mettaient toujours la même vidéo que vous avez sûrement dû voir sur Facebook, celle d'un vieil homme qui ressemble à Doc dans Retour vers le futur et qui fait une longue vidéo qui se dit médecin, effectivement il est médecin, et qui explique que donc il est médecin et que les vaccins c'est le mal absolu. Et durant 10 minutes, il argumente avec un langage très scientifique, très soutenu, en quoi les vaccins sont mauvais. Donc ces gens me mettent cette vidéo. Je vous assure, ça ne m'a pas pris plus de 2 minutes sur Google en cherchant qui était ce type, qui s'appelle Christian Tannscheller, qui est un médecin suisse, pour lire plusieurs choses. Il soigne ses patients avec l'urine. Ensuite, il est surveillé depuis 2006 par la Miviludes, vous savez, le comité de lutte contre les dérives sectaires. Ensuite, il a ouvert une maison d'édition avec laquelle il vit grassement en publiant des livres contre la vaccination, évidemment. Ce type-là, sa vidéo, elle a été partagée des millions de fois sur les forums, et notamment sur les forums africains sur Facebook, Média Africa, etc., etc. Un enfant qui fait une encéphalite rougéoleuse en France, il sera soigné et il aura une chance de s'en sortir. Un enfant qui fait une encéphalite rougéoleuse parce que ses parents n'ont pas voulu le vacciner parce qu'ils ont vu la vidéo du vieux crouton sur Facebook en Afrique, il va mourir. Donc ce type-là, qui est médecin, il a du sang sur les mains. C'est criminel, sa vidéo. Et Facebook, en laissant circuler ce genre de vidéo de la part de ce genre de personnes, c'est criminel. Facebook et ce vieux ont du sang sur les mains, vraiment.
D'accord.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Alors, pour rebondir là-dessus, c'est un peu compliqué, mais un des autres arguments qu'on peut citer aussi, là, pour le coup, qui peut se comprendre un peu plus, c'est-à-dire que, bon, alors, je ne vais pas citer le coup d'une épidémie, bah, c'est pas grave, ça va s'arrêter tout seul. Hein, après tout, c'est vrai, quand tout le monde est mort, l'épidémie, elle meurt aussi. Mais,
alors, en fait...
Non, c'est ça.
Il y a toujours 5% de personnes qui vont avoir de la résistance naturelle. Mais bon, c'est 5%, hein, donc... Effectivement, il y a beaucoup de monde qui meurt.
Puis j'ai envie de dire, oui, l'épidémie meurt tout seul, mais si c'est votre fille ou votre fils qui est mort au passage, c'est quand même dommage. Mais un des arguments qui s'entend peut-être un peu plus, enfin qui peut se comprendre un peu plus, c'est celui qui porte justement sur la fameuse composition des vaccins. C'est-à-dire que la liste des vaccins, il y a souvent des noms qui font peur. Enfin, qu'on comprend pas forcément. Donc évidemment, à chaque fois, c'est pas naturel. Donc il y a toujours l'appel à la nature qui dit, c'est pas naturel, donc c'est mal. Cette liste-là.
Les pacemakers non plus, c'est pas naturel. Hein.
Pardon.
Les pacemakers non plus, c'est pas naturel.
Je veux dire, les gros manteaux quand il fait froid, quand il fait moins 40 l'hiver, c'est pas naturel.
On est bien d'accord. Mais du coup, la question qui se pose, c'est par exemple, les fameux. On se pose la question, par exemple, sur tout ce qui est métaux lourds, les aluminiums, le mercure. Notamment, il y a l'OMS, l'Agence nationale de la sécurité des médicaments et des produits de la santé, qui a sorti. Alors, c'était pas vraiment un rapport, mais en gros un compte rendu de réunion qui justement remettait en question l'innocuité de, par exemple, de l'aluminium dans les vaccins.
Alors là, je sors la toque. Hein, vous aimez bien manger de la pâtisserie. J'ai pu voir à Nantes, il n'y a pas beaucoup d'épiceries, hein, donc je suppose que vous allez pas mal en supermarché pour vous nourrir. Bon, il n'y a pas que des Nantais dans la salle, hein, désolé. Toutes les pâtisseries industrielles utilisent la poudre à lever qui est à base d'aluminium. Alors vous en avalez des quantités faramineuses, et ce qu'il y a dans un vaccin, en comparaison, tous les jours en plus, et dans un vaccin, il n'y a vraiment que pouic. Donc je pense que pour un vaccin tous les 10 ans, vous avalez vraiment, vous ingérez beaucoup, beaucoup plus d'aluminium à votre petit déjeuner, que ce soit à l'hôtel à côté, si vous êtes surnom pour une fois, ou chez vous quand vous coupez un 4 quarts, que quand vous vous vaccinez. Vraiment beaucoup plus. Donc si j'étais vous, déjà je vous dirais de cuisiner vous-même. En premier. Les vaccins, vous verrez plus tard.
On connaît le cuisinier. Mais du coup, la question qui se pose, c'est un vaccin, c'est composé de quoi? Et surtout, comment c'est testé? Parce que on se doute quand même qu'on ne met pas n'importe quoi sur le marché et que même si l'industrie pharmaceutique n'est pas vraiment un des grands des gens altruistes, ils font quand même gaffe à ce qu'ils mettent dedans.
Après, puisqu'on parle de ça, il faut savoir que les vaccins pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est 1% de leurs revenus. Donc vous vous doutez bien que 1% pour des laboratoires comme Pfizer, c'est que dalle. Et je ne sais pas s'il y a des parents parmi vous qui ont essayé de vacciner leur enfant. C'est hyper galère en ce moment de trouver des vaccins en pharmacie parce qu'il y a des ruptures de stock. Tout simplement parce que les labos, c'est pas du tout leur priorité, les vaccins. Ils font du flou sur beaucoup, beaucoup d'autres choses, pas sur les vaccins. Vous vous doutez bien que si c'était une bonne part de leurs revenus, vous seriez sûr de ne jamais trouver de rupture de stock en pharmacie. Ceci dit, ça, voilà. Ensuite, je précise, j'ai aucun lien avec. Sinon, je serais arrivé en jet. Et voilà. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième question, c'était sur les adjuvants.
Qu'est-ce qui compose un vaccin et comment c'est testé avant mise en distribution?
Vous savez, on le teste d'abord évidemment sur les animaux, puis après sur patients malades, des patients sains, puis après des patients malades. Donc il y a plusieurs lignes avant que ça soit mis sur le marché. Et notamment sur l'aluminium, on a 90 ans de recul. C'est-à-dire qu'on a fait des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les analyses qui existaient déjà, on les a réanalysées, on les a mis ensemble, et ces méta-analyses disent... A priori, il n'y a pas du tout de problème avec l'aluminium. Mais ça, c'est quelque chose qui est inaudible. Je prends l'exemple de mon collaborateur qui est plutôt anti-vaccin et c'est totalement irrationnel. C'est parce que lui, il est beaucoup plus âgé que moi et un jour, il a vacciné une jeune fille qui a déclaré une CEP quelques mois plus tard. Et j'ai beau lui dire qu'en tant que médecin, il vaccine tous les jours des gens. Forcément, un jour, il va vacciner quelqu'un et les statistiques font que cette personne... un jour ou l'autre déclenchera une CEP parce qu'on voit aussi des CEP se déclencher au cabinet. Mais ça gravait en lui, il a l'impression d'être responsable et c'est difficile de faire sortir ces fausses croyances là parfois de l'esprit des gens.
Oui, à titre personnel, j'ai un fils autiste et il a eu une très grosse réaction quand il était bébé à un vaccin. Alors, on a vraiment un petit peu vacillé sur nos certitudes à ce moment-là en disant « Ah, c'est peut-être le vaccin. » Non. Après, j'ai eu un deuxième fils et je me suis rendu compte en comparant les deux dès la naissance que si j'avais eu l'autiste en second, j'aurais dès le premier jour détecté qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et le vaccin, il a eu une réaction comme un bébé normal, une grosse fièvre. Chez un autiste, il ne va pas savoir comment réagir, donc il va vous défoncer toute la maison. Bon. C'est un peu spectaculaire, mais c'est une réaction. Ça n'a pas déclenché l'autisme. Et dans tous les cas que j'ai connus, en discutant, c'est pareil. Le gamin avait de toute façon quelque chose pas net avant. Et c'est pas d'un coup il est devenu autiste. De toute façon, plus ça va, plus on se rend compte que c'est quelque chose de génétique. Donc, avoir une surréaction peut-être. Après, le câblage cérébral étant ce qu'il est, c'est pas impossible. Mais un déclenchement, c'est pas possible. Ça marche pas, ça.
Mais d'ailleurs, oui, c'est intéressant de parler ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a un lien réel entre la vaccination et l'autisme, et Alzheimer, et Parkinson, et d'autres maladies dégénératives. Mais ça vient d'où, ce lien-là ? C'est-à-dire que les gens ne l'ont pas inventé ?
Pour l'autisme, en fait, il y a eu c'est quand même un scientifique, techniquement, qui est un médecin, depuis radié, qui avait pipoté complètement les études pour démontrer que les vaccins provoquaient l'autisme de façon à pouvoir coller des procès et les gagner. Alors, après, on parle des lobbies de la pharmacie. Il y a le lobby des avocats aussi, qu'il faudrait peut-être mettre dans la balance. Donc, l'ennui, c'est que ça. On a beaucoup parlé de l'étude. On n'a pas beaucoup parlé du fait que le type a été radié et qu'il a avoué avoir pipoté tout de A à Z. Et ça reste. Pour casser les croyances, vous savez comment c'est. Même si vous montrez l'article de presse disant « Ouais, vous voyez, il a tout avoué devant tout le monde. » Et on va vous dire « Non, c'est des mensonges, c'est la presse qui est vendue, etc. » Donc, on s'en sort jamais.
Ce type s'appelait Andrew Wakefield et son étude était irréfutable. Il avait montré par A plus B qu'il y avait bien un lien entre les vaccins et l'autisme. Et l'étude a fait grand bruit. Elle est sortie dans tous les grands articles. Tout le monde en a parlé. Tous les médias en ont parlé pendant des mois. Donc ça s'est inscrit dans la tête des gens. Et le jour où il y a eu le démenti, où on s'est aperçu qu'Andrew Wakefield avait passé une sorte de petit contrat avec des cabinets d'avocats qui allaient ensuite attaquer les laboratoires de la part des familles des victimes, les médias en ont parlé, mais ça n'a jamais fait le même boom. Et c'était trop tard, le mal était fait, ça s'était gravé dans la tête des gens. Et depuis, il y a eu des tas de démentis, mais c'est trop tard. Au moins, on a foutu la paix aux mamans et on a arrêté de les accuser d'être responsables.
Mais du coup, ça pose aussi une autre question, c'est comment ça se fait en préparant cette table ronde, j'ai découvert une statistique qui m'a fait un peu peur. En France, par rapport au reste de l'Europe, on croit beaucoup moins à la nécessité de se vacciner, au bienfait des vaccins, que partout ailleurs en Europe. Et même plus, et pire que ça, il y a plus de gens qui croient à l'efficacité de l'homéopathie qu'à la nécessité de se vacciner. D'où ça peut venir ? Qu'est-ce qui fait que on n'y croit pas ?
Il y a eu des ratés en matière de communication, je pense. Il est possible qu'on se souvienne un peu tous de ce qui s'est passé dans les années 90 avec la campagne autour du vaccin de l'hépatite B, où il y a eu un véritable mensonge dans cette campagne d'incitation, c'est-à-dire il y avait une partie de la campagne qui reposait sur le fait que l'hépatite B pouvait être refilée par la salive. Et on a fait un amalgame avec la maladie du baiser. Et à l'époque, je me rappelle, puisque j'étais adolescente, je me rappelle que ça avait fait beaucoup de mal autour de moi en matière de croyance et de représentation de la maladie, en fait. Et alors, donc c'est très bien, il y a énormément de gens qui se sont fait vacciner, mais en soi, énormément de gens se sont fait vacciner, au final, avec une fausse raison, en fait. Et plutôt que d'utiliser la vraie bonne raison qui fait que l'hépatite B est une infection sexuellement transmissible... l'utilisation d'un mensonge dans une campagne a fait que les gens ont retenu le fait du mensonge et non pas l'utilité de se faire vacciner contre ce virus, en fait. Donc voilà, ce genre de raté dans les campagnes, à mon avis, n'ont pas fait du bien à la vaccination dans ce pays. Voilà.
Oui, en termes de communication et de campagne, il faut aussi dire qu'en France, ça fait des années et des années et des années que tous les hivers, on a dans nos écrans de télévision des pubs pour l'homéopathie, l'oscillococcinum, je ne sais plus, dont on nous dit que vite, c'est le remède miracle pour le rhume. Au bout d'un moment, les gens vont le croire. Ils le voient à la télé tous les jours. Donc forcément, derrière... Et après, quand les mêmes personnes disent que l'homéopathie ne fonctionne pas et que ces mêmes personnes disent que les vaccins sont importants, on dit, bah ouais, mais ils disent des conneries sur l'homéopathie. L'homéopathie, ça marche, on nous le dit à la télé depuis 30 ans. Voilà.
D'autant plus que l'homéopathie, ça marche, mais comme n'importe quel placebo. Voilà. Après, pour cette histoire de confiance, entre-temps, il y a eu l'affaire du Mediator. Il y a eu les vaccins H1N1 avec les achats de la ministre de l'époque. Et c'est difficile, nous, après, moi, jeune médecin, quand j'ai en face de moi des gens qui ont 60 ans, qui ont vécu tout ça, de leur dire, non, je pense que vous vous trompez, quoi. C'est quelle légitimité j'ai quand eux ont vécu tous ces scandales-là et que c'est normal qu'ils aient leur confiance dans le système de santé qui se soit amoindri, quoi.
Et du coup, quand on est médecin, enfin vraiment, qu'on pratique vraiment l'exercice de la médecine tous les jours et qu'on est vraiment sur le terrain tous les jours, comment est-ce qu'on fait pour essayer de... Est-ce qu'on essaie justement de convaincre les gens ou bien est-ce qu'on donne juste cette information et adieu va?
On n'est pas les papas et les mamans de nos patients. Donc moi, je considère que je leur dois une information. Je leur délivre l'information la plus honnête possible. Après, je ne vais pas les poursuivre avec la seringue. Et voilà.
C'est peut-être en ça, en fait, qu'une obligation vaccinale plus large, comme ce qui est prévu pour le janvier 2018, peut peut-être aider, en fait, à enlever une certaine part de la responsabilité de la prise de décision de la vaccination aux parents. C'est-à-dire que lorsque c'est obligatoire, eh ben vous le faites, vous ne réfléchissez pas, vous ne dites pas est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas. Donc il est possible, mais là, encore une fois, je m'avance un peu parce que je pense qu'il n'y a pas eu d'études sur le sujet, savoir si une obligation a un intérêt incitatif comme ça pour la vaccination. Mais en tout cas, ça peut déjà diminuer cette responsabilité-là du côté des parents. Et donc rétablir une couverture vaccinale, enfin voilà. Donc ça peut faciliter aussi le travail du professionnel de santé.
Dans les années 2000, entre 2004 et 2008, il y a eu 50 cas de complications rougéoleuses en France. Depuis 2008 jusqu'à maintenant, il y en a eu 28 000 à cause de toutes ces campagnes anti-vaccinales, etc.
Ouais, et puis
etc.
Il y a eu une épidémie, je crois, en 2010-2011, vers là, enfin, qui a fait beaucoup de dégâts, notamment chez les anti-vax.
Ce qu'il faut se méfier, c'est pareil, la dernière fois, je tombe sur un tweet d'un anti-vax qui disait, en plus, la vaccination, ça ne sert à rien. Regardez ce type, il montrait un article de journal qui montrait qu'un jeune Italien qui était vacciné était mort de la rougeole. Et effectivement, ça interroge. Et donc, l'article est partagé. Je tape le prénom et le nom du patient et en 2 minutes, j'apprends que le patient souffrait d'une leucémie de haut grade. Donc, c'est mensonger de dire aux gens qu'il est mort alors qu'il était vacciné. Oui, il était vacciné, il avait une leucémie de haut grade. Il est mort de sa leucémie, quoi. Et donc, moi, j'incite vraiment les gens, checkez vos sources, allez sur Internet, cherchez et croyez pas tout ce qu'on vous dit. Hein. Je me l'applique aussi à moi-même.
Et pour le coup, il y a eu le cas aussi en Italie, à cause d'une baisse de la couverture vaccinale d'un enfant, en fait, qui ne pouvait pas être vacciné, parce que c'est ça aussi. Il y a des enfants qui ont des pathologies et qu'on ne peut pas vacciner parce que leur système immunitaire est trop fragile. Voilà. Eh bien, cet enfant-là est décédé parce qu'en fait, son entourage proche n'était pas vacciné contre la rougeole. Donc, cet enfant a attrapé la rougeole et malheureusement, on est mort. Donc, ça existe, ce genre de cas.
Mais justement, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que sur le comportement, donc, comme dit, il faut vérifier, l'information est disponible sur Internet, il faut vérifier ses sources, etc. Mais ce qu'on constate, c'est ce qui paraît intéressant, c'est que est-ce qu'on peut faire une analogie entre la pensée, justement, la façon de fonctionner, justement, des arguments anti-vaccins avec, par exemple, les comportements complotistes, voire carrément, par exemple, si on donne un exemple concret, les climato-sceptiques. Est-ce que c'est le même ressort en termes de... Parce que là, il y a quand même quelque chose qui se passe en termes de biais cognitif, en termes de choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment le même ressort
Alors, à mon sens, oui. Pour plein de raisons différentes. Il y a la notion de la croyance, déjà, qui s'oppose à... donc la vérité reçue, on va dire, d'une certaine façon, qui s'oppose quelque part au discours rationnel, au fait d'étudier ses sources, de comprendre les choses, de faire la part des choses. D'autre part, il y a aussi un mouvement de fond quand même depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être même depuis la fin de la Première Guerre mondiale, qui est, on voit l'arme atomique, on voit les gaz de bataille, etc., où en gros on commence à rejeter en grande partie, on va dire, la science, la notion de progrès. Si le progrès, c'est effectivement de pouvoir détruire Hiroshima en quelques secondes, on peut se poser la question. Et donc, j'ai l'impression que tout ça s'inscrit dans un même mouvement. On blaguait tout à l'heure à propos du naturel qui est forcément mieux que l'artificiel. On est dans le même discours, en fait, à ce niveau-là. Il y a un mouvement de fond, je pense, de rejet de ce qu'on sait, du progrès, de la science, de la technologie, ce genre de choses.
Je crois que c'est juste profondément narcissique, en fait. Moi, quand j'ai publié cette vidéo, les nombreuses insultes qui revenaient le plus souvent, donc il y avait assassin d'enfant, et la deuxième qui revenait le plus, c'était espèce de mouton. Et je crois que quand ils écrivent ça, espèce de mouton, c'est qu'ils se sentent flattés d'être importants et de eux détenir la vérité, alors que tous les autres sont des moutons et sont ignorants. Et donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de très narcissique. Mais moi, la seule chose que je demande aux gens, c'est de croire que l'être humain est profondément vénal. L'être humain adore le fric, il fera tout pour le fric, et je peux vous assurer que pour les laboratoires n'ont aucun intérêt à ce que vous vous vacciniez. Si vous chopez une méningite rougéoleuse, vous allez être hospitalisé. Vous savez qui c'est qui va fournir les antibiotiques, qui c'est qui va fournir tous les instruments durant votre hospitalisation? Ce sont les laboratoires. Une hospitalisation pour une méningite rougéoleuse, ça va coûter à la collectivité, et donc rapporter au labo entre 10 000 et 30 000 euros. Un vaccin contre la méningite, c'est 50 euros. Donc faites confiance en la vénalité de l'être humain. Si les vaccins rapportaient vraiment plus d'argent au labo que l'hospitalisation, on ne serait pas dans cette situation-là.
D'ailleurs, pour illustrer ça, alors, vous allez croire que je suis vendu au lobby pharmaceutique, mais j'en ai fabriqué quelques-unes des machines pharmaceutiques il y a quelques années. Et on faisait des machines alors pour interférons, donc des doses hors de prix chacune, et des machines pour fabriquer des vaccins. On faisait 50 000 doses de chaque en même temps. OK ? Il y avait sur la machine interféron, il y avait un bouton qui était là, d'arrêt d'urgence, hein, mais qui était bien marqué. Attention, réfléchissez un peu avant d'appuyer là-dessus, parce que c'est cher, hein, ce qu'il y a dans la machine. Sur la machine à vaccins, ils n'en avaient rien à taper, parce que chaque fiole, c'était quelques centimes. Quelques centimes de produit qui allaient être vendus quelques euros une fois conditionné. Alors que l'autre, c'était chaque dose, c'était dans les 5 à 10 000 euros. Chaque dose, il y en avait 50 000. Alors vous imaginez, ils préféraient perdre un employé plutôt qu'est-ce qu'on appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence.
Mais du coup, la question qui se pose, c'est, une chose qui est intéressante, c'est que le débat anti-vaccin qui est à l'heure actuelle a tellement monopolisé le débat que quasiment plus personne ne s'intéresse ne serait-ce qu'à l'avenir des vaccins. Quels sont les progrès qu'on peut attendre justement de ces vaccins-là ou de technologies, on va dire, associées?
Je pense qu'on peut se dire que les vaccins, c'est un moyen thérapeutique parmi plein d'autres. Mm-hmm. Aujourd'hui, en matière d'antibiotiques, on a un problème d'antibiorésistance au niveau mondial, en fait, qui se crée. Et donc, j'ai vu dans certaines études qu'on réfléchissait, en fait, à réfléchir à des vaccins permettant de lutter contre ce problème d'antibiorésistance, donc passer plutôt par un produit de vaccination pour diminuer en fait ce problème d'antibiorésistance au niveau mondial. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait ce n'est qu'un moyen parmi d'autres, au même titre que l'hygiène, que les thérapeutiques classiques pharmacologiques, voilà. Et donc il faut le prendre comme tel. Donc l'avenir du vaccin, il est là, il doit se trouver dans toute cette batterie de moyens thérapeutiques qui va être à notre disposition pour lutter contre les maladies à venir. Voilà.
C'est 30 000 morts par an en France, la résistance aux antibiotiques. Donc c'est 30 000 personnes meurent chaque année en France à cause de ça. Et moi, parfois, je suis atterré devant mes patientes et mes patients parce que j'essaye de leur expliquer. Ils viennent pour un rhume, ils veulent absolument leur antibiothérapie. Et je leur explique que, un, ça va servir à rien parce que c'est un virus, c'est pas une bactérie. Deux, ça va leur détraquer la flore intestinale, donc leur coller une diarrhée. Et trois, leur coller une mycose au niveau des parties génitales. Et parfois, certains n'en démordent pas, ils veulent leur antibiotique. La dernière fois, j'explique à une femme que c'était absolument pas nécessaire du tout. Elle en voulait absolument. Et j'ai vu dans son regard que pour elle, j'étais un mauvais médecin. Et évidemment, ça m'a heurté. Je suis au début de ma carrière. Peut-être que dans 20 ans, quand j'en aurai marre, je lui filerai ses antibiotiques parce que j'en ai marre de voir ce regard-là chez mes patients, chez mes patients. C'est pour ça qu'il faut faire aussi de l'éducation et rappeler que c'est pas anodin. Aux États-Unis, il y a 3 patientes qui ont une cystite résistante à tous les antibiotiques connus. Ça veut dire que tout le reste de leur vie, elles vont avoir les symptômes d'une cystite parce qu'aucun antibiotique ne marche plus sur leur cystite. S'il y a des femmes parmi vous qui ont eu des cystites, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter en termes de ça va leur taper beaucoup sur les nerfs, je pense. Et,
il faut juste rappeler ce que c'est qu'une cystite pour les non-médecins. Dans
une infection urinaire, pardon. Une infection urinaire.
Merci. Justement, bah, puisqu'on a basculé sur les antibiotiques, qu'est-ce qui explique justement que les antibiotiques sont plus efficaces ? La résistance, c'est quoi exactement ?
En clair, en fait, les bactéries d'un milieu peuvent s'habituer à un produit. Parce que une bactérie, ça mute, et enfin son code génétique mute plus facilement. Il faut vous dire qu'en fait... c'est pas comme nous qui nous reproduisons à un rythme lent. En fait, on peut avoir plusieurs milliers de générations de bactéries, ou même plusieurs millions en 6 mois. Donc forcément, une bactérie va pouvoir muter et développer une résistance à des produits qui vont se trouver dans son environnement. Et c'est ce qui se passe lorsque, notamment, on va utiliser trop d'antibiotiques ou à mauvais escient. Dans un milieu, on va avoir des bactéries qui vont développer cette résistance. Cette résistance, de toute façon, on l'aura toujours. Il y aura toujours un développement de résistance par les bactéries. Mais le tout, pour nous, en fait, au niveau mondial, ce serait de réguler, en fait, la production de cette résistance. Et aujourd'hui, on a utilisé à mauvais escient et donc en trop grande quantité, notamment dans l'élevage, des antibiotiques. Donc le souci, c'est que les bactéries, c'est pas leur problème, que ce soit chez les animaux ou chez les humains, en fait ça passe de l'un à l'autre. Hein. Et donc aux États-Unis, on a tellement traité les élevages contre le staph, enfin le staphylocoque doré, que maintenant on a des souches résistantes au staphylocoque doré qui se retrouvent dans le cadre hospitalier, des infections nosocomiales qui sont avec des staphs hyper résistants. Et c'est une bactérie qui est mortelle. Hein, donc on se retrouve avec... tu disais que c'était 30 000 en France. C'est 700 000 par an, je crois, de morts liées à cette antibiorésistance. Et c'est vraiment un problème qui est mondial. On peut pas mettre de frontières en fait, aux souches bactériennes. Donc,
C'est quand je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce qu'on appelle les maladies de Crohn ou les rectocolites hémorragiques, qui sont des maladies qui ont connu vraiment un boom. Alors bien sûr, parce qu'on les a pu se diagnostiquer, mais aussi elles ont connu un boom. Et quand on regarde la courbe de croissance de ces maladies, elle suit de très près la courbe de croissance d'utilisation des antibiotiques. Et parce que quand vous prenez un antibiotique, ça tue la mauvaise bactérie qui est en vous et qui vous rend malade, mais ça tue également toutes les bonnes bactéries de manière indistincte. C'est pourquoi vous avez des mycoses dans les parties génitales ou que vous avez parfois la diarrhée parce que du coup votre flore intestinale est complètement détraquée. Pour ces MICI, on commence à les traiter maintenant aux États-Unis avec ce qu'on appelle de la transplantation fécale, c'est-à-dire qu'on prend des selles de personnes saines, c'est-à-dire les selles c'est quoi ? C'est juste des milliards et des milliards et des milliards de milliards de bactéries et on les injecte dans le tractus digestif de ces personnes qui sont malades. Et notamment pour les rectocolites hémorragiques, il y a des taux de rémission à 5 ans qui sont absolument fabuleux. Le type arrive avec un rectum et un côlon qui est complètement défoncé et 5 ans plus tard, c'est une peau de bébé, quoi. Et ça montre bien.
On a de belles images hein, quand même dans cette table ronde.
Non, mais ça montre bien quoi, l'importance de ces bactéries.
Pour un auteur, là, c'est du... Je prends des notes, ça resservira, je te jure. Ah non, mais mine de rien, à propos d'auteur, je pense qu'on n'exploite pas assez en science-fiction les résistances aux bactéries, ne serait-ce qu'en décor en science-fiction. Je ne me rappelle pas beaucoup de textes.
Alors, Peter Watts, Ecopraxia. Mais c'est vraiment un détail de fond au début du bouquin et Peter Watts est un auteur extraordinairement pessimiste. Si vous voulez savoir le pire futur qu'on peut avoir, lisez Peter Watts, c'est super.
Je me rappelle aussi de... Alors, moi, j'ai un problème avec les titres, alors il va m'aider, je pense. En fait, c'était un space opéra où chaque fois que quelqu'un changeait de base, il devait se réadapter à toute la flore bactérienne du lieu et donc passer plusieurs semaines à gérer les diarrhées et les vomissements, ça te dit rien ? C'était sympa.
Mais du coup, j'en profite qu'on a au moins trois auteurs de science-fiction autour de la table. Si vous deviez justement décrire, le 22e siècle, les vaccins ne sont plus utilisés, les antibiotiques ne sont plus efficaces. Qu'est-ce qui nous arrive ?
Oh ben, je me documente sur ce qui se passait au 18e déjà pour commencer. Hein. C'est un gosse sur deux qui crève d'une angine, à peu près. Avec toutes les variantes croupes et autres. La variole, ça c'est sympa, mais bon, elle est censée avoir disparu. Alors si on estime qu'elle revient pas, on va sûrement trouver autre chose à base de staphylocoque, comme tu disais, ou des trucs comme ça. Non, en fait, vous regardez le 18e siècle avec les gens qui mouraient de trouille à la première fièvre en disant que c'est fini, demain ils étaient morts. On va voir la même chose, un peu plus high-tech, quoi.
Plus aucune chirurgie. Parce que le gros problème des chirurgies, c'est les infections. Forcément, on vous ouvre. Hein, donc forcément, les bactéries qu'il y a dans l'air, elles rentrent dedans.
Tu me diras, ils ne se posaient pas la question à l'époque. Hein. Ils ouvraient et puis ils regardaient ce qui se passait derrière.
Ils ouvraient pas l'abdomen, ce genre de choses. Ils coupaient la jambe. Quoi. Ils coupaient la jambe, là, on peut cautériser. Là, ce n'est pas trop mal. Mais oui, effectivement, on revient quelques étapes en arrière.
Il y aura peut-être plus d'amputations.
C'est ça.
Cela dit, on aura quand même une meilleure connaissance qu'autrefois, donc on va peut-être aussi avoir des ambiances beaucoup plus stériles pour les opérations. Si tu es dans un bloc classe 500, c'est-à-dire avec quasiment pas de particules étrangères par mètre cube, il y a peut-être quand même des probabilités non nulles que tu chopes pas une saloperie.
Ouais, ouais. Alors après, un gros problème, notamment dans la chirurgie abdominale, c'est que, comme le disait Baptiste, tract digestif, c'est il y a énormément de bactéries là-dedans. Et quand on vous ouvre pour, je sais pas moi, vous enlever un polype dans l'intestin, enfin, ou vous enlever un bout d'intestin pour une raison ou une autre, forcément, il va y avoir des bactéries qui vont se répandre un peu partout. Si vous n'avez pas d'antibiotiques à ce moment-là, globalement, votre patient, vous jouez au dé, hein, et les dés sont un peu pipés quand même. Hein.
Là, vous parlez de l'avenir de la médecine, et si je peux dire un truc, moi, l'avenir de la médecine, c'est le caca. Voilà. C'est je vous parlais des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais là, on découvre actuellement l'importance de la flore intestinale sur les maladies psychiatriques comme la dépression. En Angleterre, il y a un chercheur qui est en train de faire des recherches extraordinaires sur les souris. Il les rend axéniques, c'est-à-dire qu'ils stérilisent totalement leur tractus digestif. Elles n'ont plus une seule bactérie dans le tractus digestif, c'est totalement stérile. Et ils ensemencent le tractus digestif de ces souris avec la flore intestinale extraite de souris qui sont anorexiques. Et il s'aperçoit que dans les semaines qui suivent, la souris qui a été transplantée arrête de manger, dépérit et maigrit. Et inversement, il transplante dans des souris axéniques la flore intestinale de souris obèses. Et il s'aperçoit que dans les semaines qui suivent, la souris double, voire triple son poids et sa consommation alimentaire. Et donc moi, je suis intimement persuadé et je vous fiche mon billet que d'ici 20 ans, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancé sur ce sujet et qu'on pourra traiter beaucoup plus de maladies, notamment en trafiquant la flore intestinale des gens.
Alors, il y a, si ça vous intéresse, il y a un bouquin qui est écrit par un journaliste scientifique qui s'appelle Ed Yong, dont je crois qu'il vient d'être traduit en français. Le titre anglais, c'est « I am multitude », donc « Je suis une multitude » ou « Je suis légion », qui parle globalement de microbiome un petit peu partout et qui aborde ces éléments-là. Bouquin absolument passionnant. En plus, c'est très bien écrit. Ça se lit comme un roman. C'est assez intéressant.
C'est 3 kilos. Hein. La totalité de vos bactéries le long de votre tractus digestif, c'est 3 kilos. Si on arrivait à les ramasser, ça ferait un petit bloc de 3 kilos. Là, voilà.
Et du coup, tant qu'on est dans la science-fiction jusqu'au bout, est-ce qu'on pourra remplacer justement les vaccins, ou même simplement nos anticorps par des espèces de nano-anticorps ?
Bon, les anticorps, on sait déjà les générer. Hein. Il y a une technique qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Donc tous les MAB, les infliximab, adalimumab, etc., utilisés notamment pour le traitement d'hémicides dont parlait Baptiste, qui sont des techniques qu'on maîtrise aujourd'hui. On est capable de prendre, alors, dans certaines limites que je ne connais pas, mais à peu près, on est capable de générer, en tout cas, on a une idée de comment faire, générer des anticorps pour n'importe quel corps qu'on voudrait lier. Derrière, ces anticorps, ils se lient et c'est comme des signaux lumineux qui attirent le système immunitaire. Donc on peut imaginer qu'on remplace les antibiotiques par des anticorps synthétiques qu'on irait s'injecter et qui du coup irait se planter sur les bactéries qu'on veut avoir et qui aillent faire ce genre de travail.
Et justement, donc, enfin, je reviens tout petit peu sur les vaccins, parce que quand même, il y a des choses qui restent encore sur l'avenir des vaccins. Il y a quand même un groupe de maladies auxquelles on parle beaucoup, mais, enfin, dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas forcément revenu dans la conversation, c'est les cancers. Est-ce que justement, il y a des choses comme ça, alors parler de vaccins sur les cancers, c'est un peu compliqué, mais des technologies justement qui pourront venir cibler des types de cancers ou les cellules cancéreuses?
Alors, j'ai pas vraiment de détails. C'est un article que j'ai vu assez récemment, mais il me semble qu'on commence à utiliser les bactéries pour les rediriger vers des cellules cancéreuses et qu'elles apportent à l'intérieur de leur cytoplasme, enfin, qu'elles apportent avec elles, en fait, des molécules qui pourront lutter contre ces cellules cancéreuses, en fait. Donc, on utiliserait les bactéries comme des petits vaisseaux pour apporter, en fait, la molécule anti-cancer vers... Et on les dirige, en fait, on les oriente. On utilise une autre molécule pour orienter ces bactéries vers la zone cancéreuse. Donc,
un peu dans le même genre, je crois que c'est à Montpellier. Alors, je ne suis pas sûr du tout, parce que c'est un truc que j'ai lu il y a 6 mois en feuilletant une revue du CNRS, donc un jour où je ne savais pas quoi faire. Vraiment, ne me prenez pas au mot là-dessus. Mais en tout cas, il y a une équipe quelque part en France qui étudie le cancer en utilisant les outils de l'écologie. En se disant que globalement, un corps, c'est un écosystème. D'une part, on a nous et nos bactéries, mais on a aussi nous, toutes nos cellules différentes qui ont des besoins et des niches écologiques différentes, et que quelque part, le cancer peut se comprendre, ou en tout cas se modéliser, comme un déséquilibre de cet écosystème. Et du coup, ça peut donner lieu à peut-être des thérapies ou en tout cas au moins des instruments de prévision, de prédiction. Et je trouve que c'est assez illuminant comme approche.
Déjà aujourd'hui, Arevamed, par exemple, a mis au point des nanomatériaux qu'on charge en isotopes et qu'on va injecter directement dans le cancer. Pour faire une radiothérapie ultra ciblée avec beaucoup moins d'effets secondaires qu'une radiothérapie qu'on vous injecterait directement. Donc c'est d'ailleurs peut-être la seule partie rentable d'Areva aujourd'hui si vous voulez investir.
Après le cancer, c'est une question de, j'allais dire, c'est une question de vie ou de mort, mais c'est la cellule. Elle est faite pour mourir. Elle naît, elle meurt, elle est remplacée par une neuve. Et donc le cancer, c'est quand une cellule échappe au système immunitaire qui n'arrive plus à la détruire. Et donc elle se met à se reproduire. Elle est incapable de réaliser ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire le suicide cellulaire. Et donc elle se reproduit de manière intempestive. Et là, s'il y a des hypochondriacs dans la salle, vaut mieux qu'ils sortent. Mais chaque seconde dans votre corps... votre système immunitaire détruit 2 à 3 cellules cancéreuses qui sont en train d'échapper au système immunitaire. Donc ça paraît pas du tout idiot de penser qu'on puisse créer via le système immunitaire, donc via des vaccins, des nouvelles thérapeutiques contre le cancer.
Je trouve ça toujours très poétique, même si c'est un peu étrange de dire ça, de se dire que le cancer, c'est des cellules qui ont oublié comment mourir.
Oui, alors... D'ailleurs, il y a pas mal de choses à faire également en prévention, parce que notre organisme il est quand même fait, comme tu disais, pour se débarrasser des cellules cancéreuses. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, beaucoup de gens se sont posés la question, qu'est-ce qui fait que d'un coup, il arrête? Pourquoi il en rate une? Et il y a beaucoup de réponses dans notre mode de vie. L'alimentation, le stress, le manque de sommeil, comme on disait hier à une autre conférence. toutes ces choses-là favorisent les inflammations et augmentent les probabilités que l'organisme n'arrive plus à se débarrasser d'une cellule cancéreuse. Et une seule suffit dans ce cas-là.
Ce que je vous propose de faire, c'est d'arrêter là pour notre discussion. Par contre, de laisser la parole au public, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Le micro arrive, juste là.
Bah en fait, si en fait les gens abusent des antibiotiques, des vaccins contre les maladies, bah du coup les cellules vont évoluer pour devenir résistantes et du coup, ce qui explique pourquoi certaines personnes assez idiotes meurent parce que à force d'utiliser le même vaccin alors qu'ils n'ont pas la maladie, bah du coup le moment où la maladie va venir, le virus va résister. La maladie, le virus ou le microbe, il va résister au vaccin et du coup, ça veut dire qu'en fait, la personne va être emmerdée parce qu'à force d'utiliser toujours le même vaccin, alors que ce n'est pas nécessaire, ça veut dire qu'elle meurt pour rien. Elle a gâché l'efficacité du médicament contre la maladie. Donc du coup, il faut savoir que les médicaments, c'est pas un truc auquel on utilise ça pour le plaisir, pour n'importe quoi. Il faut utiliser quand c'est nécessaire. Et comme ça sera efficace et en fait les gens qui meurent comme ça c'est parce qu'ils utilisent trop.
Merci.
Alors je crois qu'il y a une confusion entre deux termes. Le vaccin, ça sert à entraîner le système immunitaire contre les maladies. Je pense que la question porte surtout sur les antibiotiques. Elle lève une question intéressante, effectivement, qui est souvent on utilise des antibiotiques à large spectre. Alors après, je parle sous le contrôle de Baptiste, hein, je suis pas du tout médecin. L'idée, c'est que certains antibiotiques vont travailler sur des classes entières de microbes, de bactéries, voire toutes les bactéries, alors que d'autres vont travailler de façon beaucoup plus ciblée. Et effectivement, quand on est aux urgences avec une grosse infection, la première chose qu'ils vont faire, c'est vous donner pendant une semaine des antibiotiques contre absolument tout, y compris des choses contre lesquelles vous n'êtes pas infecté, sur lesquelles vous n'êtes pas infecté. Et en deuxième lieu, ils vont prendre des biopsies, faire des cultures, déterminer quelles sont les bactéries qui vous attaquent et à ce moment-là, vous donner uniquement les antibiotiques ciblés là-dessus. Voilà, il y a un petit peu ce niveau-là. Effectivement, potentiellement, dans la première phase où on vous donne des antibiotiques contre tout ce qu'on connaît, ça peut avoir des effets néfastes et on peut se dire que derrière, on va avoir entraîné des résistances. Mais comme disait Lily tout à l'heure, on a forcément un niveau de résistance qui va se créer. Après, c'est un problème de le réguler et de ne pas l'utiliser n'importe comment. En l'occurrence, si on est dans ces situations-là, c'est la première semaine qui est critique et c'est celle qui vous sauve la vie, donc on ne se pose pas trop la question.
Merci.
Allô ?
Un petit problème de micro.
C'est bon. Bonjour. Donc moi, ça sera assez court. La question, c'est qu'en est-il des rétrovirus qui semblent poser des problèmes particuliers ? Ouais, c'est tout.
Alors, je ne sais pas trop répondre, juste pour recaser un peu le contexte, un rétrovirus, c'est un virus qui va être capable d'injecter son ADN dans une cellule pour générer d'autres cellules virales. Et du coup, cet ADN peut se retrouver dans la cellule qui, pour une raison ou pour une autre, ne meurt pas, n'explose pas pour produire d'autres virus, d'autres particules de virus. Et on peut se retrouver à avoir de l'ADN viral qui va se continuer et se reproduire et ainsi de suite pendant très longtemps. Voilà. Après, je ne sais pas quoi répondre.
Juste
Après, je pense que de toute manière, nous avons probablement, au cours de l'évolution, intégré dans notre propre projet génome des milliers de rétrovirus qui sont totalement partis maintenant de notre ADN. Le problème des rétrovirus, on trouvera une solution. De toute façon, on trouve toujours des solutions. Je suis hyper confiant.
Je sais plus où, mais j'ai lu un article. Enfin, si, je sais à peu près où. Je pense que c'est dans The Atlantic, et c'est toujours le fameux Ed Yang dont je parlais, qui traitait des travaux d'une équipe qui semblait, alors toujours à prendre avec des guillemets et du conditionnel, puisqu'il faut que ces études-là soient répliquées et confirmées, semblait donner lieu, enfin, indiquer que les gènes cruciaux qui ont permis la formation du placenta, donc ce qui nous sépare, nous, on va dire, des kangourous, sont en fait des gènes qui viennent d'un ADN viral. Donc, quelque part, c'est aussi un élément qui va être constructif.
Une autre question ? Oui.
Allô ? Oui. Donc, la question, c'est, on disait tout à l'heure par rapport à la résistance des bactéries aux antibiotiques, que c'était l'élevage qu'on consommait énormément, et on sait qu'on trouve actuellement des nouveaux antibiotiques qui permettent encore de combattre. Mais est-ce qu'ils se retrouvent directement utilisés par les éleveurs, ou est-ce qu'il y a un blocage, ou est-ce qu'on continue à faire la même bêtise ?
Alors, c'est l'utilisation, en fait, d'antibiotiques sur l'élevage, en fait, qui va provoquer un développement de la résistance. Donc, c'est pas par l'alimentation que ça passe. Hein, c'est vraiment pas ce principe-là. Hein. Ensuite, rappelez-moi votre question.
On a des nouveaux antibiotiques qui arrivent à attaquer des nouvelles résistances. Oui. Et je me demandais si, du coup, les éleveurs, ils les utilisaient tout de suite et qu'ils continuaient encore à...
Alors, je sais pas comment ça se passe. Enfin, tu t'en sais peut-être plus sur la question. Ce que je sais, c'est qu'en France, quand même, on a diminué l'usage des antibiotiques sur les élevages récemment. Et qu'on a vu des résultats positifs, en fait, sur cette antibiorésistance. Elle a diminué aussi. Après,
il y a des antibiotiques qui sont à utilisation strictement hospitalière, c'est-à-dire qu'ils ne quittent pas les portes de l'hôpital.
D'accord.
Et donc, ceux qu'on utilise en élevage sont des antibiotiques de base. Mais il faut aussi qu'on se remette en question, parce que si on utilise ces antibiotiques, c'est parce qu'on met 1000 vaches, par exemple, dans une même ferme. C'est parce qu'on met 10 000 poulets dans un tout petit carré comme ça. Ils n'auraient pas besoin d'antibiotiques s'ils avaient de l'espace pour gambader, pour pouvoir respirer. Il faut voir les images. On pense qu'on veut de leur manière de faire, mais il faut voir les images que fait les vidéos que font L214, l'association. Les antibiotiques, on les utilise sur les animaux parce qu'on est incapable de traiter et d'utiliser les animaux de manière humaine et éthique, quoi.
Après, il y a aussi une question de vitesse. C'est le problème aujourd'hui, c'est que les résistances se développent plus vite que nous, on arrive à développer de nouveaux antibiotiques. Et c'est ça le problème.
Oui, effectivement, on a vu aussi un effet positif en réduisant la taille des élevages. On se rend compte que sur des plus petits élevages, avec beaucoup moins de bêtes, on a moins besoin d'utiliser des antibiotiques, en fait, tout simplement. Donc, je pense que le souci est vraiment global et ça repose pas uniquement par mieux utiliser les antibiotiques. Ça, c'est la première chose, mais il faut aussi revoir peut-être tout notre système de production à ce niveau-là.
La rentabilité, c'est mal. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, parfait.
Moi, j'ai une toute petite question, vite fait. J'avais entendu parler il y a quelques années des virus bactériophages comme nouvelle technique, et je n'y connais pas grand-chose, du coup.
Oui, ce sont des virus qui s'attaquent directement aux bactéries, en fait. Hein. Et pour le coup, il me semble que c'est aussi une des voies de recherche actuellement pour essayer de réduire l'usage des antibiotiques.
Oui, c'est en fait une voie de recherche, donc j'avais cherché un petit peu, mais c'est vrai qu'on a aussi des héliobiotiques maintenant qui apparaissent, qui sont en fait des virus qui sont génétiquement modifiés pour attaquer directement les bactéries. Donc il y a aussi des choses comme ça, oui. Les virus vont aussi être une possibilité d'améliorer les choses pour les antibiotiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui. Alors, à propos des vaccins, vous avez incité à vérifier vos sources sur Internet. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de m'informer. Et donc, j'ai recherché des articles, des études sur l'effet, enfin, le rapport bénéfice-risque des 11 vaccins là, qui vont être imposés, d'une étude scientifique qui prendrait deux groupes, les vaccinés avec 11 vaccins et puis les non vaccinés ou vaccinés avec 3 vaccins classiques. Et je n'en ai pas trouvé. Est-ce que vous en avez trouvé ? Et est-ce que la science-fiction, ça serait pas de... un peu, c'est peut-être une utopie, mais que les décisions de santé publique elles soient prises à partir d'études scientifiques qui soient publiées, qui soient disponibles pour tout le monde, quoi. C'est ça, parce que là, on a du mal à trouver.
Alors, moi, j'ai dit tout à l'heure que il était plus intéressant pour les laboratoires qu'on ne se vaccine pas, mais j'ai pas dit pour autant que l'obligation vaccinale pour les 11 vaccins, il n'y avait pas une histoire de gros sous derrière. Et effectivement, il y a une histoire de gros sous derrière, mais c'est pas celle qu'on pense. C'est-à-dire que quand vous allez vous vacciner, il y a ce qu'on appelle les vaccins pentavalents. C'est où il y a 5 différents types de maladies contre lesquelles on se vaccine, d'accord ? Dans ce vaccin pentavalent, il y en a 3 qui sont obligatoires, le DT polio. Et ils en ont rajouté 2 autres, la coqueluche et l'hépatite B, si je ne dis pas de bêtises. Et le problème, c'est que des parents qui étaient anti-vaccins ont demandé au gouvernement, nous, on ne veut pas le pentavalent, on veut un trivalent, le seul, enfin, avec les 3 vaccins obligatoires, on ne veut pas des 2 autres qui ne sont pas obligatoires. Et du coup, Marisol Touraine, qui ne savait pas quoi faire, elle a refilé le bébé à Agnès Buzyn, qui, elle, comme elle ne savait pas quoi faire, elle a dit, c'est pas grave, on rend tout obligatoire, comme ça, on n'a pas à se compliquer la vie, parce que sinon, ça obligeait à demander aux laboratoires pharmaceutiques de retravailler pour refaire toutes les études pour sortir des vaccins trivalents, et alors que le pentavalent était déjà mis sur le marché depuis des années. Et donc, il y a aussi une histoire de sous derrière. Simplement, c'est pas celle qu'on croit.
Du coup, moi, j'ai, pour rebondir là-dessus, c'est que est-ce que c'est pas moins traumatisant pour, par exemple, pour les enfants de se faire injecter qu'une seule piqûre plutôt que X ? Et est-ce que c'est pas dangereux de mettre autant de vaccins, entre guillemets, autant de pathogènes dans le corps d'un gamin en même temps ?
Ce qui est sûr, c'est que c'est moins traumatisant pour le médecin. Personne, enfin, moi j'aime bien les petits, j'ai pas envie de leur faire mal, quoi. Et avoir un petit qui pleure et tout, personne fait ça par gaieté de cœur, quoi. Après, comme je vous dis, ce qu'on leur met, ce sont des cellules mortes. C'est-à-dire, il y a absolument. Alors, la seule inquiétude qu'il pourrait y avoir, c'est la surréaction immunitaire à ces cellules mortes. Un vaccin, un gamin entre ses 0 et 3 ans, il ne va pas arrêter de tomber malade parce que je vous assure qu'il va être confronté à bien plus de pathogènes entre ses 0 et 3 ans qu'avec les seuls vaccins qu'on va lui injecter, quoi. S'il y a parmi vous, il y en a forcément des gens qui ont eu des enfants, vous savez très bien qu'ils tombent malades tout le temps, quoi, très régulièrement. Vous les amenez chez le médecin, mais parce qu'ils s'échangent des bactéries entre eux, qu'ils font leur système immunitaire, et que on en revient sur les histoires de caca. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas trop leur donner d'antibiotiques, parce que entre les 0 et 3 ans, c'est aussi à ce moment-là qu'ils vont faire leur flore intestinale. Et c'est aussi pour ça que des études sont sorties récemment, et qui montrent que l'accouchement par voie basse doit être préféré à la césarienne, parce que lorsque l'enfant passe par la filière génitale, je donne des petits détails, mais il ouvre la bouche, donc forcément il est colonisé par les germes génitaux de sa maman, et que c'est très important pour lui ce moment d'infestation, parce que ça lui permet de créer sa flore. Et d'ailleurs, les meilleures sages-femmes le savent très bien, puisqu'elles prennent des chiffons qu'elles frottent contre les parties génitales de la maman et qu'elles vont s'en servir pour faire la première toilette du nourrisson, en veillant bien à nettoyer la bouche du nourrisson avec le chiffon, parce qu'elles savent intuitivement que cette infestation est importante pour l'enfant.
Merci. Une dernière question.
Oui. Ça fait 20-30 ans qu'on nous explique que le patient devient de plus en plus acteur de sa santé, qu'on n'est plus dans une situation paternaliste où on impose les traitements au patient, qu'on essaie de lui faire comprendre qu'il est assez libre et intelligent pour savoir ce qui est bon pour lui. Du coup, l'obligation vaccinale, est-ce que ça ne vient pas complètement à l'inverse de tout ça ? Comment est-ce qu'on fait comprendre à nos patients que c'est pas, et on ne les prive pas de liberté de choisir ? Mais voilà, on ne revient pas dans le modèle paternaliste, on ne va rien imposer, mais c'est pour la société qu'il va falloir le faire. Enfin...
Moi, j'ai 2 fistons, j'essaye de leur faire comprendre, quand ils ne comprennent pas, je leur balance un coup de pied au cul, entre guillemets. Est-ce que là, je pense qu'on a quand même, on est arrivé un peu au bout de la logique. On a essayé d'être hyper pédagogue, d'expliquer aux gens c'est bien, faites-le, ça marchait. D'un coup, ça marche plus. Bon, on peut continuer comme ça et faire en sorte que ça marche plus du tout, hein, mais je pense qu'à mon sens, l'État a une responsabilité aussi. Et là, il n'a plus trop le choix, il est obligé de forcer. Sinon, ça va partir complètement en sucette.
Baptiste ?
Je comprends ce que vous dites et j'adhère effectivement à cette idée de paternalisme médical qui est tout ce que je peux combattre en tant que médecin. Et je ne peux pas vous dire autrement que malheureusement, les gens sont cons, hein, globalement. Et c'est difficile d'aller contre cette pente naturelle chez l'être humain. Et je m'inclus dedans. Et à l'époque où le vaccin contre la variole est sorti, les gens étaient persuadés que ça allait les transformer en vaches. Aujourd'hui, on pense que ça va transformer, provoquer des scléroses en plaques. Et à chaque fois, il y a des fausses croyances contre lesquelles il faut se battre. Mais ça, ça demande de la pédagogie, du temps et de l'argent.
Et d'ailleurs, pour conclure, du coup, la pédagogie, ça passe aussi, pour le coup, par la BD. Et donc, nos trois auteurs, trois des auteurs qui sont ici sont en dédicace juste après ça. Donc, on va vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et on va se quitter là-dessus.